Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
Il se dresse, assorti de son adjectif majestueux, s'étend dans un vallon où cache ses richesses derrière une enceinte, au bout d'une allée bordée de peupliers ou sur une colline verdoyante. En tout cas, il se plante là, avec ses jardins, ses tours, ses donjons, ses dépendances, ses domestiques, ses princes et ses princesses, ses lits à baldaquins et ses impôts fonciers. Parfois des caties, il n'en conserve pas moins sa superbe ou son arrogance, car c'est son job au château de dominer, d'en imposer, de se poser là. Tiens, prends ça, moi je suis un château et toi t'es qui ? Loin d'être anachronique ou ringard, le château reste un des symboles les plus puissants de la domination, car il est légitimé par l'ancienneté, l'histoire, le sang et l'argent mélangés. Qu'il soit néo-châtelain, industriel, start-upper ou héritier aristocrate, les propriétaires de châteaux, expliquent les inévitables Pinson Charlot, en tirent un bénéfice symbolique inestimable, qui s'appuie sur l'inscription dans la durée. Mais ils n'en perdent pas moins le nord, et dans une interview donnée à l'Express, les deux sociologues précisent que sous prétexte de mécénat et de passion pour le patrimoine historique, les propriétaires de châteaux sont souvent fort bien organisés, et ils considèrent l'argent de l'État comme un dû pour entretenir leur château. Même si leurs domaines sont privés, ils se considèrent également comme dépositaires du patrimoine national et trouvent tout à fait légitime que l'État contribue au financement de leurs propriétés. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, nous rencontrons Charles-André de Brissac et Antoinette de Rohan, deux châtelains en leur demeure, très confortables, très agréables, comme il est convenu de dire pour désigner un luxe inouï. La dure vie des châtelains au temps du Covid, tout de suite, c'est un reportage de Stéphanie Thomas.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est tout à fait l'Elysée.
Ah, on a le droit de s'asseoir sur ces beaux fauteuils rouges.
Ils en ont vu d'autres, croyez-moi. Ils ont vu quelques paires de fesses de toute nationalité et ils ont survécu. Alors, on est dans une pièce importante puisqu'il s'agit du grand salon. On l'appelle également le grand salon doré parce que si vous levez les yeux, vous êtes sous un magnifique plafond à caissons du XVIIe siècle. C'est l'époque de construction, plus exactement de reconstruction de Brissac. Et s'il y a une date à retenir dans l'histoire familiale de ce château, c'est le 26 mai 1502. Qu'est-ce qui se passe le 26 mai 1502 ? Eh bien, un très très lointain aïeul, un ancêtre qui s'appelait René de Cossé, il va chez le notaire. Il regarde ce qu'il y a en catalogue et il se dit, ben voilà, ça me plaît. Et il achète, rubis sur l'ongle, la terre de Brissac et son château. Et dès lors, le 26 mai 1502, il devient René de Cossé, seigneur de Brissac. Et ces deux noms, Cossé et Brissac, mis l'un dans l'autre, donnent notre nom à l'état civil. Moi, je m'appelle Charles-André de Cossé-Brissac. Je suis le marquis, parce que je suis le fils aîné du duc.
Ah, voilà. Donc quand votre père décédera,
voilà,
vous serez duc.
Voilà, je prends un barreau de plus, un galon, une étoile, tout ce que vous voulez. C'est une sorte d'automatisme que vous donne la naissance et le décès, si je puis dire. J'ai grandi partiellement ici, c'est très chic, je suis né à l'hôpital américain. Je suis allé à la petite école, ensuite le collège à Angers, puis le bac à Paris. Puis retour à Angers pour une école de commerce qui ne m'a pas servi à grand-chose, que vraiment celle qui a le génie du commerce, c'est beaucoup plus mon épouse que moi-même. Et j'aurais mieux fait de faire une école de plomberie ou de menuiserie, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui. Puis un an en montagne, à Barcelonnette, dans les Chasseurs alpins, qui était la plus belle année de ma vie, dans les cimes de la Haute-Provence. Et puis une expérience professionnelle de 2 ans à Paris, qui m'a permis de voyager. Et à 26 ans, je suis revenu à Brissac prendre la suite de mes parents, qui en avaient un peu marre et qui avaient peut-être pas forcément les mêmes armes pour s'ouvrir à des impératifs économiques, de réception, de visite, de chambre d'hôte, et que moi j'avais peut-être plus de facilité à faire, et très gentiment, ils m'ont confié les clés et m'ont souhaité bonne chance. Et donc c'est un choix que je ne regrette pas du tout quand j'avais 26 ans. Et puis je me suis marié 5 ans après, j'ai épousé Larissa, qui n'était pas française, qui est née d'un père hongrois, d'une mère canadienne, et qui a été danseuse à l'Opéra de Londres. Donc vous voyez, elle a quitté une grande scène pour trouver une petite scène, parce que Brissac a un théâtre. Alors si on additionne toutes les générations, on arrive à une petite vingtaine, si on veut être très précis, 18 générations que Brissac est resté dans la famille, avec une seule interruption, quelques années au moment de la Révolution française. C'est une personne âgée, un grand château, il faut lui tenir la main tout le temps. Alors on n'en est pas encore à mettre le respirateur artificiel, mais on ne peut pas s'éloigner, donc on a une responsabilité un peu permanente de se dire « je suis celui qui doit veiller à la bonne santé du monument ». Et on a parfois le sentiment d'être un peu seul quand arrivent des tempêtes d'ouest, qu'on déplace des bassines d'eau, même si on l'a moins qu'à une certaine époque. Il peut brûler et tout disparaître. Donc ça, c'est un peu anxiogène. Et donc, je ne sais pas comment ça va vieillir. Personne ne le sait vraiment. Une étincelle, deux étincelles, trois étincelles, et puis tout y passe. Voilà, ça, c'est vraiment une inquiétude.
Vous devez être bien assuré, parce que c'est une...
Pas vraiment, non, parce que personne ne veut vraiment assurer ce genre de demeure. Donc, voilà, on vit dangereusement. Et puis ensuite, il y a toute la partie plomberie, effectivement, une grosse fuite d'eau. J'ai eu une très grosse fuite d'eau le jour du 15 août, vous voyez que voilà, ça m'a pas porté chance. Et donc, je pouvais pas couper l'eau du château parce qu'il y avait besoin des chasses d'eau et en période Covid, fait que les gens puissent se laver les mains. Donc, on a laissé cette fuite perdurer. Donc, il a fallu que j'appelle le plombier qui porte un nom merveilleux. Il s'appelle Ange-Marie. Il est corse et il était en Corse au moment du 15 août. Je lui ai dit, Ange-Marie, faites quelque chose. Très gentiment, il est revenu la semaine suivante et on a pu réparer la fuite. Mais effectivement, c'est une menace... Ouais. À prendre très au sérieux la grosse fuite d'eau. Et devant un imprévu, devant un aléa, on a vu des monuments brûlés, on a vu des monuments abandonnés. J'espère que ça ne sera pas le cas ici, mais encore une fois, je vous dire qu'on est pour ça un peu dans la main de Dieu. On verra ce que lui en décide. Et je ne vais pas demain vendre Brissac au roi de la courroie crantée, à un Américain fortuné, ça n'aurait aucun sens. C'est un membre de la famille, ce château. Brissac, il a été construit sous la monarchie, mais il est restauré par la République. Et donc, moi, toute ma gratitude va au ministère de la Culture qui nous aide, va aux assemblées territoriales qui nous aident, la région, le département, et ça, vraiment, du fond du cœur, avec ma plus grande gratitude. Donc, un monument historique tel que celui-ci, aux mains de la même famille depuis 18 générations, eh bien, c'est un bel exemple de continuité historique, quels que soient les aléas de l'histoire. Eh bien, je dirais que ça coûte ce que vous voulez bien que ça coûte. On peut ne rien faire, payer la taxe foncière et attendre l'année suivante. À partir du moment où on décide de l'entretenir, de le faire progresser, ça coûte en fonction de ce qui rentre, de ce qu'apporte l'activité économique. Car moi, je n'ai pas de fortune personnelle. Et donc, c'est l'activité économique d'ouverture au public. Les recettes liées à la visite, à la boutique, à la vente du vin, aux chambres d'hôtes, aux réceptions... qu'on peut bâtir un budget, il faut 500 000 par an, voilà. Il faut un bon 50 000 par mois pour arriver à faire progresser les choses. Encore une fois, ça ne progresse qu'au rythme où vous voulez le faire progresser. Et puis le reste, moi j'ai un salaire, c'est mon salaire aussi, j'ai un salaire de cadre, bon je vais pas vous donner le montant parce qu'il varie d'une année sur l'autre, mais on va dire que c'est un salaire de cadre, ça n'a rien d'exceptionnel quoi. On autofinance, on emprunte, c'est de la gestion de TPE, de très petites entreprises. Donc le fait d'être vraiment né derrière le comptoir, ça m'aide beaucoup. Je pense qu'il faut trouver le bon couple produit-marché, comme on dit en marketing, c'est-à-dire bien analyser sa région, parce qu'à chaque région correspond quand même une clientèle un peu particulière, avec des souhaits particuliers. Analyser le monument en se disant, ben lui, il est plutôt fait pour ça, ou ceci ou cela. Et puis, ne faire que ce qu'on aime. Moi, il y a des choses que j'aime pas ici, c'est par exemple organiser des mariages, parce que je trouve que, c'est un peu, je vais pas dire un viol, mais la musique jusqu'à 3 heures du matin, l'alcool,
bénévoles. C'est une activité que je n'aime pas faire ici, on l'a souvent fait. Par contre, j'adore recevoir des visiteurs. Je trouve que c'est sympathique d'avoir des gens qui arrivent, qui franchissent le seuil, venant du fin fond de la Hollande, de l'Espagne, de la Lorraine ou ailleurs. Et je trouve que chaque visiteur est quelque chose de très touchant, parce que quelqu'un qui paye pour venir voir votre maison, ben on lui doit beaucoup de respect et une sorte d'amitié spontanée. Bien sûr, on a quand même une partie privative dans le château. On habite un appartement, Brissac est très grand, donc on peut se le permettre. Alors que des monuments plus petits, quelquefois, il faut partager la salle à manger avec les visiteurs. Ça, je l'ai connu quand j'étais enfant. À 2 heures, on devait avoir fini le repas parce que les visiteurs arrivaient. Mais on était fascinés en même temps. C'est très amusant de voir les visiteurs quand vous êtes enfant. Et l'équipe qui est là est constituée d'abord du bloc accueil. La personne et les personnes qui gèrent la vente de tickets, les renseignements téléphoniques, le salon de thé. Puis il y a un deuxième bloc qui est le bloc de la visite. Donc là, ce sont des guides. Et puis il y a un troisième bloc qui est toute la partie vente de vin, vente et dégustation des vins de la propriété et de la boutique. Et puis se rajoute à ça les deux personnes qui s'occupent de l'entretien, une femme de ménage qui s'appelle Sylvie et un jardinier qui s'appelle Tony. Il y a une femme de ménage pour tout un château, mais on lui donne un coup de main de temps en temps quand elle a besoin.
Et puis vous aussi?
Ah oui, moi j'adore faire le ménage.
C'est, voilà. Pas, c'est vrai?
J'adore faire la vaisselle et le ménage, oui. Je ne sais pas pourquoi, je devrais analyser ça plus en détail. J'adore passer la cireuse et ça m'énerve quand je vois une toile d'araignée, donc ça va plus vite de prendre la tête de loup soi-même que de demander à quelqu'un de le faire. Et j'ai beaucoup d'admiration pour Sylvie parce que c'est un métier, c'est très très dur le ménage, donc je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui partent à 6 heures du matin dans le RER faire du ménage. Le ménage, il faut l'avoir fait pour savoir que physiquement, c'est super dur. Je sais ce que c'est que la difficulté de faire le ménage. En plus, on a une activité de chambre d'hôte, donc il y a aussi les chambres à refaire, tu vois, c'est beaucoup de boulot. Bon, il faut pas non plus être trop regardant à un château. Ben oui, il y a un peu de poussière, Mais globalement, le château est plutôt bien entretenu parce que c'est fait régulièrement. On essaye de donner l'illusion que c'est bien entretenu. Alors le Covid, ben, on a pris ça en pleine poire. Vous savez, Brissac, ça a été ouvert en 1936 et avec une amplitude qui était d'année en année identique. C'est-à-dire que quand arrivait Pâques, vous voyez, fin mars, début avril, les portes du château s'ouvraient et puis se refermaient à la Toussaint. Et donc toute ma vie, quand le lilas commençait à fleurir, eh bien les premiers touristes commençaient à arriver. Et là, stupeur et tremblement, en 3 mois, je n'ai vu que le technicien qui entretient l'ascenseur et personne d'autre. Et donc, j'étais seul avec les enfants, le chien et le responsable de l'ascenseur. Il valait mieux qu'il intervienne parce que 3 mois dans l'ascenseur, ça laisse des traces. Mais voilà, donc ce beau ciel bleu, cette absence de touristes fait que c'était à la fois très déstabilisant et en même temps qu'on l'a pris comme un moment qu'il fallait vivre intensément, un moment familial pour ceux qui ont la chance d'être à la campagne en famille. Ça n'a pas été donné le cas à tout le monde. Donc là, pour une fois, le rat des champs a eu l'avantage par rapport au rat des villes. Voilà, donc indépendamment de la perte financière et du coût que ça a occasionné, ce qui décale d'autant les investissements qu'on avait prévu de faire cette année, ça a été un moment absolument inoubliable, mais on a laissé s'empoussiérer les meubles et les parquets, et Sylvie, qui est en charge du ménage, a eu beaucoup de travail au retour. Par contre, il fallait s'occuper de l'extérieur, parce que la nature est cruelle et elle vous attend pas, Covid ou pas, confinement ou pas, l'herbe pousse, voilà. Donc ça, ça a été pas mal de travail. Et tout ce que j'avais en retard, notamment en matière de classement d'archives, de tri, de choses à garder, à pas garder, à envoyer à de patresse, on a pu le faire parce qu'on avait vraiment le temps de le faire. Et je crois que j'ai jamais autant travaillé que pendant ces 3 mois. À tel point, il paraît que j'ai perdu 4 kilos après 3 mois de confinement. L'inverse était plutôt la norme. Armez-vous de courage, parce qu'on va maintenant emprunter l'escalier et donc les 7 étages de Brissac. Et j'adore emprunter cet escalier, il me maintient en forme, c'est le seul sport que je pratique ou à peu près.
Il y a combien de pièces ici ?
C'est une des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je ne peux pas vous répondre sur la surface du château ni sur le nombre de pièces. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Alors, vous voyez, pendant qu'on se promène, moi je vois tout ce qui ne va pas. Ben, c'est ça, à l'œil du maître, il faut voir ce qui ne va pas. Et ça, vous voyez, cette porte qui est amusante puisqu'elle est cachée derrière une tapisserie, le revers tombe en loc littéralement. Donc ça m'énerve au plus haut point. Tiens, Stéphanie, on va faire un truc, une ambiance. On va faire tourner le tournebroche. Je l'ai acheté aux enchères, ce tournebroche. Vous voyez, il vient d'un château, on a même la date, 1816, un château qui est en l'Eure-et-Loire. On a un formidable poulet en plastique trouvé sur Amazon qui tourne sur le tournebroche et on explique aux enfants ce qu'était un tournebroche.
Et là, toutes ces cornes de cerf, c'est des choses qui ont été chassées dans le domaine, sur le domaine ?
Alors moi, je ne chasse pas, je chasse le visiteur, qui est un gibier compliqué. Alors on parle de massacres, je suis désolé, c'est le nom de massacres de bois de cerf qui ont été chassés en forêt de Rambouillet chez mon arrière-arrière-grand-mère. Donc ce ne sont pas des cerfs locaux, mais ce sont des cerfs parisiens. Vous voyez ici un menu, donc dîner du 2 mars 1937. Consommé aux perles. Filet de sole Tourville, sel d'agneau sauce poivrade, chaud-froid de poulet, salade, fondant au chocolat, fromage et fruits.
France Culture, les pieds sur terre.
Nous sommes devant le château, devant la façade renaissance du château. Donc là, vous êtes en 1500, pratiquement rien n'a changé. 1500-1510, un château qui a été délaissé par ses propriétaires, par la famille, environ 3 siècles et demi. Et c'est seulement vers 1855 que un aïeul de mon mari décide de revenir ici et de commencer une très importante campagne de travaux qu'on a appelée la restauration de Josselin, qui a duré environ 25 ans. Donc c'est devenu tout à fait habitable depuis cette époque-là et c'est habité depuis 1870-75. Voilà. Je m'appelle Antoinette de Rohan et donc j'ai 74 ans. Et donc je me suis mariée en 1973, donc j'avais 27 ans. J'ai commencé à venir très régulièrement dans cette maison, dont mon mari était déjà le propriétaire. Et puis au décès de sa grand-mère, en 1976, j'avais donc 30 ans exactement, et je me suis retrouvée toute seule ici, face à ce... j'appelle ça toujours un grand paquebot, même si on n'est pas au bord de la mer. Et en fait, j'étais pas vraiment préparée à ça, puisque moi j'étais journaliste, j'étais dans la presse écrite. Et donc voilà, j'ai donné ma démission et j'ai commencé à m'investir beaucoup plus largement, évidemment, dans l'existence, l'animation, la préservation, voilà, de cette grande bâtisse. Ici, la fondation du site, c'est 1008. Hein. La famille est venue fêter le millénaire. Alors, mon mari a été maire de la commune de Josselin pendant 36 ans, dans le Morbihan, là où nous habitons, la commune de Josselin, 2500 habitants, là où est le château, où se trouve le château. Il a été conseiller général du canton de Josselin pendant 18 ans. Et ensuite, il a été élu sénateur du Morbihan. Et il est resté sénateur du Morbihan pendant 28 ans. Nous avions une vie, il faut dire, assez compliquée parce que mon mari travaillait donc en semaine pour gagner évidemment sa vie, l'argent de la famille.
Et payer le château.
Enfin, surtout l'argent, oui, surtout la famille. Le château, à l'époque, les visites rapportaient suffisamment. Non, ça ne se posait pas, mais il fallait quand même, avec déjà des enfants, assurer la vie de la famille, comme partout. Et le vendredi, et le samedi et le dimanche, il était ici pour les réunions à la mairie, les réunions pour le conseil général, les banquets. À l'époque, il y avait des banquets le dimanche, les kermesses, enfin, tout ce que fait un élu, tout ce que fait un maire, tout ce que fait un conseiller général. Donc, on avait une vie vraiment, vraiment compliquée parce que pour nous voir, arriver à voir nos enfants, c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça aussi que je suis commencée à venir beaucoup ici parce que je me suis dit que si je voulais quand même... voir pas mal mon mari quand même, il fallait aussi que je vienne ici, que je sois aussi sur son lieu de travail. Heureusement que j'ai pu avoir la chance de ne pas être obligée de rester tout le temps ici. Sinon, je pense que là, j'aurais eu des moments psychologiquement très difficiles. Alors quand ça va pas, je prends le car, je prends le train, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je rentre me distraire, je rentre voir de l'art contemporain, je rentre voir autre chose. Je pense à autre chose parce que sinon, effectivement, on pourrait ployer sous le poids psychologique d'une telle maison les soucis financiers qui peuvent être très graves, très lourds. Enfin là, on va les affronter maintenant à partir du mois d'octobre parce que 4 mois de fermeture pour nous, c'est quand même assez catastrophique. Il faut que le produit des visites équilibre, tout simplement, que vos recettes équilibrent vos dépenses. Et je pense que c'est exactement le même problème que pour n'importe quel Français. Et quand on a fait une saison très médiocre, ça nous est arrivé, nous avons eu du mal à gérer les fins de mois difficiles. Moi, ça m'a très, très souvent empêché de dormir. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'insomnie ici et que de temps en temps, je rentre à Paris pour dormir aussi, pour oublier ces soucis-là, parce que ça peut vous hanter de manière quand même assez désagréable, assez sévère. Il y a des postes de dépenses ici incontournables. Par exemple, les assurances, les impôts, les salaires. On a beaucoup restreint le personnel aussi. Mais restreindre le personnel, ça veut dire qu'on travaille beaucoup plus soi-même. Il n'y a pas de mystère. Donc, paradoxalement, les années passant, j'ai eu, dans un sens, plus de travail ici. Et autrefois, on avait dans une maison comme celle-ci, dans les années 1900, toute une armée. C'était Downton Abbey ici. Hein. Maintenant, c'est la femme de ménage à mi-temps, hein, donc il faut que tout soit vu, que tout soit inspecté. En fait, cette année, maintenant, il y a un changement, elles vont venir à deux, parce que je trouve qu'être seule dans cette grande bâtisse pour faire le ménage, je trouve ça un peu difficile. Donc nous allons avoir deux matinées, nous allons avoir ce qu'on appelle un binôme, une équipe, elles viendront en équipe, et je pense qu'elles se soutiendront l'une l'autre, et puis voilà, moi je peux les aider. J'ai acquis aussi une certaine autonomie, je sais presque démonter un aspirateur, je sais quels sont les bons trucs, je me dis que dans une autre vie, je ne serai dépendante de personne. Dans ce château, je sais presque tout faire et j'ai tout fait. J'ai fait les vitres, j'ai fait les réparations, je ne fais pas la plomberie, l'électricité, pour vous dire tout ça, bien sûr. Mais maintenant, j'ai acquis quand même, depuis une dizaine d'années, une sorte de savoir-faire qui fait que je détecte tout de suite ce qui ne va pas, la toile d'araignée, l'infiltration, la chose comme ça. Mais je sais mieux comment je vais parer au problème. En gros, je connais mieux les remèdes. Une des leçons du Covid, c'est que j'ai été obligée, toute seule ici, parce que mon mari a beaucoup de qualités, mais je ne peux pas dire que les tâches quotidiennes dans la maison, ce soit sa spécialité, hein, il en a d'autres. Hein. J'ai acquis le sentiment que là, je pouvais faire beaucoup de choses. Je sais faire beaucoup de choses maintenant. Mais nous, il nous faut 400 000 euros de recettes, hein. Sinon on a du mal, voilà, par an. Voilà. Donc il faut les gagner l'été, il faut les gagner pendant la saison. Et si on ne les a pas, eh bien, on a du mal à dormir, parce qu'on a trois prêts sur le dos, là. Et donc, juillet a bien marché, on a eu du monde. Août, ça a baissé très vite, on a déjà, voilà. Et septembre, nous ouvrons en plus. Nous nous sommes engagés à ouvrir tous les jours. Donc, nous sommes quand même, ça veut dire du personnel, des jeunes. Et cette année, avec les mesures sanitaires, nous avons dû embaucher pratiquement deux fois plus de personnel. C'est une année un peu particulière, mais nous n'allons pas du tout avoir les recettes comme d'habitude. Oui, si le coût est tellement lourd, tout est tellement cher, qu'on est absolument contraint, et c'est pour ça qu'on est toujours contraint d'augmenter le nombre de visiteurs, parce que c'est ce qui permet de réparer, d'entretenir, même si nous sommes bien aidés par les pouvoirs publics, ça il faut vraiment le dire, malgré tout, ici, on est toujours dans le souci financier. Bon, ça nous est arrivé à mon mari et moi d'avoir de vendre quelques objets qui nous appartenaient personnellement, en propre, pour combler les vides. Ça nous est arrivé d'aller mettre en vente un tableau parce que qui nous appartenait personnellement, hein, qui n'était pas accroché dans le château depuis des lustres, que mon mari avait hérité, qui était un bien personnel. Ça nous est arrivé de le vendre pour arriver à équilibrer le budget du château. C'était précédé quand même de pas mal de moments d'anxiété, parce que c'est une source de perte et c'est une source d'appauvrissement, château. Personne ne s'enrichit avec un château. C'est pour ça que, petit détail, nous sommes quand même soumis ici à l'IFI. Vous voyez, nous, ici, nous payons l'impôt sur la fortune pour le château de Josselin. Une partie de l'argent que nous pourrions mettre dans des travaux, nous sommes obligés chaque année de régler cette somme aux impôts, parce que l'impôt sur la fortune immobilière pèse sur un château comme celui-ci, ce qui est absolument inique. Mais voilà, une fois que je l'ai dit, on ne va pas reparler de ça. Il y a les assurances, il y a les salaires, il y a les impôts, on en a parlé. Et puis il y a les réparations courantes pour lesquelles nous ne percevons aucune subvention. Quand je vous parle des subventions, ce sont pour les gros travaux. Un rempart, les lucarnes, les épis de faîtage, la toiture, là, nous sommes aidés assez largement par les pouvoirs publics. Le reste, les fuites, les problèmes d'électricité, tout ce qui peut vous arriver dans une maison, simplement, c'est un peu puissance 10. Alors là, c'est totalement à notre charge. Donc nous équilibrons très, très difficilement. Donc moi, j'ai développé un lien assez passionnel avec ce lieu. C'est vrai, c'est comme un personnage. Je me suis prise de passion petit à petit pour cet endroit, même s'il y avait des moments, comme dans les couples, où on a envie de laisser tomber, même si j'ai râlé, je suis assez râleuse. Si ça suffit, ça suffit. Mais en fait, mon mari et moi, nous sommes là encore pendant quelques mois, mais nous sommes en train de transmettre à notre fils ce grand bâtiment. Et lui va certainement créer toutes sortes d'autres animations, à drainer d'autres clientèles, nous lui faisons confiance. Mais c'est pas évident, c'est pas facile.
Ho visto un re.
Se lo riscusa?
Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime.
Ma tante che?
Bagnava anche il cavallo.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È l'imperatore che gli ha portato via un bel castello di 32 che lui cena.
Povero re.
E povero anche il cavallo.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un vescovo.
Se la riscusa?
Ho visto un vescovo.
Ave, sì, beh, ave.
Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
È il cardinale che gli ha portato via una pazzia.
Oh, poi Cristo!
32 che lui cena.
Povero vescovo.
E povero anche il sacrista.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave.
Ho visto un ricco.
Se la scusa?
Ho visto un ricco.
Un show.
Sì, ave, sì, beh, ave, sì, beh.
Il tapino lacrimava su un calice di vino. Ed ogni goccia andava
diretta al vino.
Sì, che tutto l'annacquava.
Povera vino.
E povero anche il fin.
Sì, beh, ave, sì, beh, ave, sì.
Il vescovo, il re, l'imperatore l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via tre case, un caseggiato di 32 che lui cena.
Povera fin.
C'était La dure vie des châtelains au temps du corona, reportage de Stéphanie Thomas réalisé par Clémence Gross et mixé par Philippe Thibault, l'attaché de production. Des pieds sur terre, c'est Mélissa Foust. Merci bien sûr à Charles-André de Brissac et à Antoinette de Rohan. La séparation, c'est le nouveau podcast des pieds sur terre. Je voulais vous en parler par Sophie Simoneau. Pourquoi on s'aime, pourquoi on ne s'aime plus. 25 ans de la vie quotidienne d'un couple mythique, de leur mariage en 97 à leur vie en 2020. Il sera disponible à partir du 17 septembre. Préparez-vous.